Actu SF, les podcasts.
Alors, avec un petit peu de retard, excusez-nous, nous allons donc commencer en fait cet entretien avec Jean-Pierre Fontana sur l'imaginaire donc de la science-fiction française. Je vais commencer tout de suite juste par présenter un tout petit peu Jean-Pierre, mais bon, Jean-Pierre, je dirais qu'il fait partie du paysage de la science-fiction française depuis relativement longtemps, je ne vais pas dire très longtemps, mais relativement longtemps, au moins depuis les années 70. Donc beaucoup de gens, évidemment, le connaissent, mais d'autres peut-être ne le connaissent pas. Donc en fait, Jean-Pierre Fontana, eh bien d'abord, c'est, je vais donner comme ça quelques petits éléments. Jean-Pierre Fontana, c'est d'abord le fondateur du Grand Prix de la science-fiction française. Il a été également le président du Grand Prix de l'Imaginaire donc pendant une quarantaine d'années. Mais c'est aussi un écrivain, quelqu'un qui a donc écrit de beaux romans et puis des romans tout à fait inventifs, beaucoup de nouvelles également. Et puis c'est aussi lui qui va lancer en France les conventions donc de science-fiction qui n'existaient pas évidemment avant. Donc tout ça, il va nous en parler évidemment. Et puis c'est aussi un critique reconnu de cinéma qui est collaborateur régulier de Galaxy et de l'écran fantastique. Donc Jean-Pierre Fontana, c'est un ce qu'on appellerait peut-être un polygraphe, quelqu'un qui écrit différents types d'articles, de fiction, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait partie, quand je dis du paysage, c'est un grand témoin de la science-fiction française. Voilà. Alors Jean-Pierre, ma première question, c'est finalement, dans votre vie, quel rôle a joué la science-fiction ?
La question très vaste. Ben, disons qu'elle a joué d'abord un rôle dans ma prime enfance, puisque le premier roman que je me souviens avoir lu, je l'avais trouvé dans un placard à chaussures. Il manquait la couverture et c'était Le tunnel sous la mer de Luigi Motta. Alors, je suppose que c'est pas par hasard qu'il était là, parce que mes parents étaient italiens et Luigi Motta était un auteur italien. Donc, c'est pas tout à fait par hasard. Et par la suite, j'ai retrouvé le roman dans la collection de chez Talandier, bibliothèque des grandes aventures et romans excentriques. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça a été mon premier pas, si je puis dire, dans la science-fiction ou la proto-science-fiction, en l'occurrence. Ensuite, dès que je suis rentré en sixième, un jour, par hasard, le professeur nous demande de faire un résumé d'un livre à choisir. Et je tombe sur, c'était les débuts du Fleuve Noir, ou presque, je tombe sur le deuxième volume de la série de Richard Bessières, Les Conquérants de l'Univers. Et je veux dire, là aussi, ça m'a rappelé, ça m'a remis dans le créneau de la science-fiction. Ensuite, j'avais un frère qui adorait ça, qui malheureusement est disparu il y a longtemps, et qui avait les rayons fantastiques. Et je me souviens qu'il m'avait tarabusqué, il voulait pas me donner la solution. Et à l'époque, je pense que j'aurais pas pu le lire. Le fameux triangle à quatre côtés, où je m'ai perdu. J'essayais de savoir comment pouvait être ce triangle à quatre côtés. Quoi, c'était invraisemblable. Et depuis, un roman que je recommande parce que j'aime bien les histoires qui tournent autour des problèmes psychologiques, sexuels, etc. Puisque c'est le cas. D'où je suis aussi un peu un fan de Christine Renard. Qui est un peu à la mode actuellement, puisqu'elle a été de ces personnes qui ont osé aborder ce type de problème. Donc voilà, je referme la parenthèse. Après, je dirais, jusqu'à l'âge adulte, enfin, en gros, jusqu'après mon régiment, je me suis nourri à plein de littérature, enfin, je suppose comme tout le monde. Hein. Et au retour du régiment, j'avais déjà des velléités d'écriture. Et donc, mes premières nouvelles, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer justement Christine Renard, qui m'a un petit peu aidé dans l'écriture de mes premières nouvelles. Et en plus, c'est l'époque où il y avait des fanzines qui commençaient d'exister. Et notamment, un fanzine qui s'appelait Mercury, qui était édité par Françoise Brecht, et qui n'a eu que deux numéros. Et comme j'avais l'idée de faire un fanzine, moi aussi, alors pourquoi, j'en sais rien, mais les choses des fois sont bizarres, hein, je lui ai proposé, puisque normalement il devait s'appeler Comète, et donc j'ai repris Mercury, Et c'est curieux parce que le premier numéro de Mercury, la page, alors pas la couverture, mais la page de garde, il y a Comet, évidemment. Enfin bon, donc après, j'ai entrepris l'édition d'un fanzine, Mercury, qui est devenu peut-être un peu culte depuis, mais qui a quand même marqué son époque parce que j'ai eu la chance d'avoir comme collaborateur, c'est le cas de dire, d'une part Gérard Temet et de l'autre côté Jacques Chambon, qui a une certaine célébrité dans la science-fiction.
Okay. Et Pierre Versin, pour ceux qui n'auraient pas...
Oui.
Voilà.
Et donc, j'explique un peu, ce fanzine s'est très vite enrichi, d'abord en nombre de pages, je crois qu'on a eu un peu, presque un record du monde, mais en plus de ça, alors on a eu des tirages, le dernier numéro s'est tiré à 600 exemplaires, et ils ont été épuisés. Mais ce qui a fait la particularité, c'est que très rapidement, on a utilisé d'abord ce qu'on appelait le stencil électronique, et ça nous permettait de découper, enfin de faire une bonne reproduction d'images, etc., de les découper pour les faire des découpes dans le stencil sur lequel on tapait le texte et de coller, enfin de faire des montages. En même temps, on utilisait des imprimeurs qui nous imprimaient ce qu'on appelait des pavés de presse au niveau cinéma, et ça nous permettait d'avoir de belles illustrations. Ensuite, grâce à quelqu'un qu'on connaissait à la fac de lettres, qui nous faisait des tirages à l'offset, donc tout ça rassemblé, ça donnait, je dirais, un fanzine qui n'avait presque plus rien à voir avec ceux qui se faisaient à l'époque. Je ne dis pas que c'était mieux au niveau du contenu, mais au niveau de la présentation, il est sûr qu'ils avaient une certaine qualité. Donc on en a fait 15 numéros. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois le 15e numéro terminé, donc là, on était en gros en 1968, d'une part, Jacques Chambon partait comme professeur à Aubusson, Gérard Temet finissait ses études à Paris, et en gros, je me retrouvais tout seul à Clermont. Et un fanzine à l'époque, il faut voir que les tirages, enfin, il y avait des piles qu'il fallait rassembler, tout seul, ça devenait impossible. Et il se trouve que grâce à Maurice Renaud, qui était à l'époque, je ne sais pas s'il l'était encore, mais qui était le directeur et le fondateur des éditions Opta, et encouragé aussi par Alain Dorémieux et par d'autres, Alain Dorémieux étant à l'époque le rédacteur en chef de fiction, il m'avait encouragé à transformer le fanzine en revue. Et donc c'est ce qui était envisagé. Maurice Renaud m'avait trouvé un financier d'ailleurs, hein, et je dirais en gros, lorsque ça devait pratiquement passer à la réalisation, on avait trois numéros de prêt. Le premier numéro, on avait une couverture illustrée par Gauguin, qui était un des grands illustrateurs de l'époque, américain. On avait obtenu les droits d'Astounding, qui n'était pas, qui n'avait pas de revue en France. Et d'ailleurs, une petite chose amusante, c'est qu'il y a quelques textes qui sont parus dans Fiction, qui venait d'Astounding, alors que normalement, c'était pas logique, tout simplement parce que mai 68 est arrivé, donc le financier a retiré ses billes, hein, il a pris peur, et d'autre part, donc les nouvelles qui me restaient, il y avait notamment une nouvelle d'Anderson, une de Jack Vance, une de Theodore Sturgeon, enfin et quelques autres, Fiction ou Galaxy, donc Opta a bien voulu me les reprendre, et c'est curieux parce qu'il y en a qui sont réédités actuellement, et il n'y en a pas un qui s'est dit, mais comment ça se fait que ces nouvelles-là, issues d'Astounding, soient dans une revue ou dans des revues qui n'avaient rien à voir avec. Enfin, donc voilà. Donc l'histoire de Mercury et de ce qui devait suivre, et s'est arrêté là, et je dirais en gros, d'abord, j'en ai fait une dépression, honnêtement, hein, parce que ça m'a fiché un coup, et il se trouve que, enfin je parle peut-être beaucoup, mais il se trouve qu'à ce moment-là, enfin à l'époque de Mercury, d'abord je fréquentais beaucoup de cinéma, d'abord pour avoir des pavés de presse, des scénarios, etc., etc., et j'avais créé un ciné-club qui s'appelait L'idée et l'écran, d'après le titre d'un opuscule en trois volets qu'avaient fait Jean-Louis Bouquet et Henri Fescourt, des pionniers du cinéma, et Donc ce ciné-club s'était arrêté pour différentes raisons, pas en fonction des spectateurs, mais pour des problèmes de salle. Mais enfin bon. Et donc un jour, donc j'étais en arrêt maladie, si je puis dire, enfin pas très longtemps, mais je me souviens, j'étais dans mon jardin, il faisait beau, je devais être dans une chaise longue, en train de lire, je crois que c'était d'ailleurs Dracula, je ne l'avais pas encore lu. Et un monsieur se pointe, et c'était le directeur du Ciné Mario, qui était une petite salle de quartier, et qui vient me trouver, qui me dit « Ouais, je suis embêté, parce que... » Alors, c'était encore de ces patrons de cinéma qui... Je ne sais pas si vous avez vu « La fiancée du pirate », où il y a un des personnages qui projette des films dans les campagnes, dans les bars, etc. Et c'est ce qu'il faisait, lui. Donc, il avait sa salle à Clermont qui tournait pendant 3 jours, hein, et juste une séance par jour, et, sauf le dimanche où il en faisait 2 ou 3. Et... Donc, son opérateur avait trouvé un emploi dans une salle de la ville, et donc il manquait d'opérateur. Donc, il vient me trouver, parce qu'il savait que j'avais fait un ciné-club, et il croyait que j'étais opérateur. Moi, j'y connaissais rien. Je lui dis, mais vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Ouais, mais vous me dépanneriez, c'est pas compliqué. Donc, il m'a appris à me servir d'abord d'un 16 mm, puisque c'était un peu un cinéma presque de patronage. Hein. Donc, j'ai commencé à... Donc, j'ai appris à tourner. Enfin, je ne raconterai pas les... Il y aurait plein d'anecdotes à dire, mais enfin, peu importe. Hein. Donc, je fais les premières séances. Et alors, je dirais catastrophe. Je me souviens, le premier film qu'on a passé, ça devait être Méfiez-vous, fillettes. Et le deuxième, Jerry Cotton contre les gangs de Manhattan. Vous voyez, j'ai un peu de mémoire. Et alors, on a dû faire 7 ou 8 entrées dans la semaine. Et je lui ai dit, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Donnez-moi votre livre de recettes depuis la création de la salle, et je vais essayer de voir quels sont les films ou le genre de films qui marchent bien. Donc j'ai fait des courbes, etc. Et je me suis aperçu que chaque fois qu'il passait un film un peu fantastique ou de SF, tout à coup, il y avait une pointe. Et ben j'ai dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on a donc, je me rappelle, le premier film que j'ai programmé, d'ailleurs, c'était Jason et les Argonautes. Et à l'époque, il y avait la fameuse séquence du spectateur à la télé. Et le dimanche, avant qu'on le passe, à la séquence du spectateur, il passe des extraits de Jason. Et je veux dire que, donc, la première séance, c'était pas moi qui tournais, je suis allé voir et il y avait du monde. Donc, ça m'a encouragé dans ce sens. Enfin bon, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Mais très vite, je me suis aperçu qu'en 16 mm, il n'y avait pas grand-chose. Et je lui ai dit, il faut transformer votre salle en 35 mm. Donc, le format traditionnel des salles de cinéma de l'époque. Et donc, on a eu la chance qu'une salle de cinéma fermée, on a pu racheter les appareils. On les a installés, donc on a tout fait ça nous-mêmes, hein, l'installation électrique, etc. Enfin bon, à l'époque, j'étais assez débrouillard aussi. Et puis, on a commencé de programmer. Je me rappelle, le premier film, c'était Le cimetière pour morts vivants, un film italien noir et blanc. Je me souviens qu'il y avait à peu près la moitié de la salle qui était remplie, et les gens ont applaudi à la fin. Et après, bon, ben, je passe là-dessus, mais ça nous a donc encouragé. Alors, j'ai monté un club. À partir de là, avec cette équipe, ça nous a permis d'organiser d'abord un premier festival en 1972, où j'avais invité Jacques Guamard, André Ruellan, etc. Enfin bon. Et puis, à l'exemple d'abord de ce qui se faisait en Italie, puisque j'avais été invité à une convention à Carrare à l'époque, et à l'exemple de ce qu'a fait Jean-Pierre Andrevon à Grenoble, mais d'une autre façon, en 1974, puis ça n'existait pas en France, on a dit, on va créer, alors on l'avait appelé le premier congrès de la science-fiction française, et on avait invité donc un grand nombre d'auteurs, et surprise, on a quand même fait 12 000 entrées dans une salle qui ne faisait que 204 places. C'est pour vous dire, on rajoutait des séances la nuit, etc. Enfin, puisqu'il y avait quand même l'apport cinéma qui apportait des finances. Il n'y aurait pas eu ça, peut-être qu'on n'aurait pas pu le faire. Et puis, donc, il y a eu des tables rondes, des choses comme ça. Je dirais que Jean-Pierre, qui a participé, pourrait en parler plus que moi. Parce que quand vous organisez quelque chose, en fait, vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Enfin, voilà. Donc, et en même temps, on a donc créé, puisque ça n'existait pas non plus, il y avait le prix Apollo, mais chaque fois, c'était des auteurs étrangers. On s'est dit, il faut créer un prix français. Ça a été le Grand Prix de la science-fiction française, qui est devenu, comme tu l'as dit tout à l'heure,
le Grand Prix de l'imaginaire.
Voilà.
Alors, vous voyez, je veux dire, à travers le récit de Jean-Pierre, le titre de cette table ronde prend tout son sens. Ils ont fait l'imaginaire en France, avec ce verbe faire, où on voit bien finalement qu'on part de pas grand-chose, en fait, au départ, mais qu'il faut bien, à un moment donné, pour un festival, même si, ou une convention, puisque les conventions existent maintenant, depuis 1974, avec, je crois, 100 interruptions, il me semble. L'historique, dans l'historique des conventions en tête, il n'y a pas eu d'interruption. Donc, ça veut dire que, Jean-Pierre, tu as quand même été à l'origine, quasiment, de la création d'événements qui a permis de regrouper peut-être le fandom français, en fait.
Oui.
Alors, pour la petite histoire, Jean-Pierre est en train de m'écrire un livre sur le sujet, qu'il faut d'ailleurs qu'on reprenne un petit peu et qu'on retravaille. Mais on espère bien donc sortir ce livre sur l'histoire du fandom français, sa création, son développement, etc. Alors, j'avais une deuxième question après, justement, c'est par rapport au cinéma. Parce que je sais que vous travaillez beaucoup avec Jean-Pierre. Donc, on a bien compris, évidemment, que le cinéma, ça faisait partie d'une de tes grandes passions. Mais finalement, est-ce que c'est que le cinéma de science-fiction ou est-ce que c'est aussi le cinéma fantastique ? Ça, je sais, qui t'intéresse beaucoup aussi. Donc, plutôt le cinéma de l'imaginaire ou le cinéma en général, et comment ça s'est répercuté après tout au long de ta vie?
Alors, d'abord, d'une part, je crois que j'aime tout le cinéma. J'entends par là qu'il y a des films que j'aime pas ou d'autres que j'aime, d'autres, enfin bon, peu importe, mais je crois que je suis d'abord un cinéphile, tout simplement. D'ailleurs, si j'ai animé des ciné-clubs ou autres, c'est pas tout à fait par hasard. Bon, il est vrai que ma prédilection, forcément, c'est en gros le cinéma de l'imaginaire, que ce soit la fantasy,
l'horreur.
Oui, absolument. Alors, il y a souvent des gens qui me disent, il y a pas longtemps, par exemple, j'ai fait des débats dans une salle qui s'appelle L'Ambiance à Clermont, qui tournait autour de l'œuvre de Dario Argento. J'avais invité une personne, je lui ai dit, oh ben là, il n'y a pas de problème, c'était Profondoro, sur les frissons de l'angoisse. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Et la personne m'a dit, ah, tiens, j'étais obligé de me cacher les yeux et tout, etc. Je dirais, j'ai pas ce problème-là au cinéma. Mais c'est vrai que mon cinéma de prédilection, c'est effectivement le fantastique, la SF et la fantasy. Je dirais, comme Jean-Pierre, que je recite de nouveau, qui m'a fait la gentillesse de me demander de participer à son super et gros dictionnaire, qu'il faut absolument avoir.
C'est
un monument.
C'est un monument de référence.
Absolument, donc, quand il m'a proposé, je veux dire, moi, ça a été aussi un bonheur. Alors, c'est vrai que je participe à l'écran fantastique, mais moins sur le plan du cinéma, même si j'ai eu quelques actions. C'est plus au niveau de ce qu'il appelle l'antre, et dans laquelle on fait des critiques de livres, enfin, je dirais même pas des critiques. On essaie de donner envie aux lecteurs de découvrir les livres dont on parle. Si les bouquins en valent pas la peine, autant ne pas en parler. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Voilà, mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion de voir un film et d'en parler, évidemment que je m'en prive pas.
Alors, on va revenir un peu à l'historique de la science-fiction française. Dans cette grande carrière que tu as eue, finalement, est-ce qu'il y a des auteurs français qui t'ont plus ou moins marqué, ou des auteurs d'ailleurs étrangers? Est-ce que tu peux nous raconter des rencontres extraordinaires
Tu as pu faire. Des rencontres, souvent, alors quand c'est pour les auteurs américains, en plus je ne parle pas du tout l'anglais, c'est une catastrophe, mais j'arrive un peu à le lire, mais je me souviens d'ailleurs d'une fois où je me trouvais à une table avec des auteurs des États-Unis, et heureusement j'avais Valerio Evangelisti à côté de moi, qui lui parle plusieurs langues, donc il me servait d'interprète. Mais bon, j'ai eu effectivement, à l'époque de la revue Fiction, presque à l'époque de mes débuts, j'ai eu quand même deux gros coups de cœur. Un pour Jack Vance, que j'ai eu la chance de rencontrer à un Utopia à Poitiers, dans le cadre de la... comment ça s'appelle? Enfin, le grand parc qu'il y a là... Futuroscope. Ah, voilà. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai pas pu beaucoup parler avec lui parce que, mais enfin, donc j'ai été présenté parce que j'avais fait la préface de Tchaï avec Jacques Chambon. Et auparavant, je sais plus, je crois que c'était dans Fiction, il me semble, sur deux numéros, on avait fait une étude de son œuvre de l'époque. Donc ça a été effectivement un de mes coups de cœur. Il y a eu aussi un autre auteur que j'adore, enfin, qui est malheureusement décédé depuis longtemps, avec lequel j'ai échangé plusieurs fois, c'était Robert Young. Ça m'a permis de faire à l'époque deux anthologies aux nouvelles éditions Oswald. Et depuis, dans une revue que j'ai créée avec une association que je préside actuellement, donc un numéro avec des nouvelles inédites, enfin qui n'étaient jamais parues en France jusque-là, et on en prévoit encore quelques autres. Un auteur, alors c'est là où j'ai du mal à comprendre. Autant Jacques Vance est toujours d'actualité. Dernièrement, Le Bélial a sorti deux gros volumes splendides, d'ailleurs, que je recommande. Mais Robert Young, qui a été un des auteurs les plus publiés, aussi bien dans Fiction que dans Galaxy, qui est un auteur, je dirais, absolument superbe, très romantique quelque part, et ben lui, il a disparu. Et quand j'ai sollicité des éditeurs pour faire, par exemple, parce qu'il écrivait surtout des nouvelles, il a dû écrire deux, trois romans, mais c'était surtout des nouvelles. Ah non, non, les nouvelles, ça se publie pas, etc., ça marche pas, ce qui est pas vrai, d'ailleurs, hein. Et donc, ben voilà, c'est resté lettre morte, et heureusement, comme la revue que j'ai lancée, ça nous permet maintenant, même très modestement, de remettre de remettre sur pied, d'essayer de refaire connaître Robert Young, qui le mérite. Quand on pense qu'il y a une nouvelle, ben je cherche le nom maintenant que j'ai publié, excusez-moi, des fois la mémoire, enfin, qui a été classé au Japon parmi les 5 ou 6 meilleures nouvelles de tous les temps. Enfin, donc, c'est pour dire. Hein. Donc, voilà, un auteur qu'il faut découvrir. Donc, ceux qui sont ici, s'ils ne connaissent pas, essayez de découvrir Robert Young, c'est indispensable. Alors, vous me parliez d'auteurs français. Alors, bien sûr, Christine Renard, qui a été le premier auteur que j'ai connu, que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de revoir à plusieurs reprises, parce que sa mère habitait très près de chez moi, et c'est comme ça que j'ai pu la rencontrer, d'ailleurs. Bon, après, elle habitait Paris, mais elle venait assez souvent à Clermont, et malheureusement, elle a disparu, ça fait 40 ans cette année, et j'essaie de faire de cette année une année Christine Renard. Donc, on a déjà réédité deux de ses romans. Elle n'a pas eu de chance, d'ailleurs, avec les éditeurs. Elle avait eu un prix sur un premier roman qui a été presque volé, je dirais, en Italie, qui a été traduit en Italie, qui a été publié à 3 reprises, donc très récemment, et qui n'avait pas d'édition française. Et le manuscrit était quasiment perdu. Et à force de chercher, grâce un peu à Stéphanie Nicot, d'ailleurs, et puis à d'autres personnes, j'ai réussi à récupérer 2 manuscrits d'origine de ce roman, qu'elle avait appelé, elle, l'Enfance des dieux. Hein, ne pas confondre avec La naissance des dieux de Denberg. Un avec des corrections manuscrites et puis l'autre sans. Donc je me sers des deux pour, je dirais, parce qu'il faut carrément le retaper. Hein. On va essayer de le publier avant la fin de l'année. Et puis on a trouvé également, alors d'abord des nouvelles inédites qui vont paraître dans un Galaxy là, dans quelques jours, et d'autre part quelques romans inédits, mais que je dois lire. Il y a au moins 2 romans fantastiques et un roman qui est plus du mainstream, je dirais. Enfin, voilà. Mais celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Hein. Et j'ai pu le faire parce que j'avais déjà, depuis l'an 2000, hein, 2000-2001, j'avais rencontré sa nièce, Claire. Et puis je lui en avais parlé, je lui ai dit j'aimerais bien faire quelque chose sur Christine, et elle m'a dit pas question, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, mais il y avait quand même un gros traumatisme dans la famille. Et puis, le temps a passé. Je l'ai revu plusieurs fois, notamment son mari, qui était... Maintenant, il est à la retraite. Il était prof, je dirais, dans un institut à Clermont, hein, scientifique. Et donc, en la revoyant, hein, elle s'est mise à relire du Christine Renard. Elle m'a dit, oui, on ne peut pas y laisser comme ça. Et donc, voilà, on est reparti, un peu grâce à elle, donc, à refaire de la réédition de Christine Renard. Donc, ça fait partie de mes, je dirais, un petit peu des amours littéraires de l'époque. Dans cela, bon, j'ai eu la chance de rencontrer souvent Nathalie Enberg. Bon, je dirais, c'est encore très particulier. C'est un peu celle qui a, je dirais, dans une certaine mesure, créé la fantaisie en France. Bien qu'à l'époque, on parlait qu'uniquement de science-fiction, mais c'est vrai qu'elle en était quand même assez loin.
En fait, elle a un space opéra qui, c'est vrai, peut s'apparenter à la fantaisie.
Absolument, c'est-à-dire que c'est toujours sur des planètes, etc.
Nathalie Enberg, si vous n'avez pas lu, il faut lire absolument La Plaie. C'est, je pense, un des chefs-d'œuvre de la science-fiction française. Un grand space opéra.
Alors, ce qui est curieux à propos de Nathalie, et je ne lui avais pas posé la question à l'époque, mais il y a eu d'abord un certain nombre de romans qui sont parus sous le nom de Charles Enberg. Et après, donc, petit à petit, elle a commencé de mettre Nathalie Charles, et puis après, Nathalie tout court. Et je me rappelle, il y a eu quelques polémiques à l'époque en disant, quand c'était Charles, c'était bien, mais alors maintenant, Nathalie, féminin, etc. J'ai relu, puisqu'on le réédite là, sous peu, la Rosée du Soleil, qui doit être son deuxième roman, et je me suis dit, mais c'est pas possible, il fallait qu'il le relie. C'est tout à fait Nathalie Enberg, c'est pas du tout Charles.
Est-ce que Charles écrivait vraiment ?
Non, mais j'ai bien cru, à la limite, il l'a conseillé peut-être au niveau peut-être technique ou autre, ou scientifique, je sais pas. Mais l'écriture, c'est Nathalie tout le long, hein, avec toutes ses obsessions, ses références, souvent d'ailleurs, puisqu'elle était d'origine russe, hein, donc on a un petit peu tout ça. Et puis, beaucoup de références aussi à ses années de guerre, puisque c'est là qu'elle a rencontré Charles, qui était d'origine allemande, et qui a participé un peu à la guerre du Moyen-Orient, avec cette particularité, c'est que, à la limite, il était du côté, je dirais, France libre, si je puis dire, et anglais, et quelquefois, il s'est trouvé à se battre contre les Français, mais les Français allemands, si je puis dire. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez particulier et assez trouble. Hein. Et par exemple, dans La Forteresse perdue, on a tout à fait une adaptation de ce qu'elle a vécu à l'époque. Voilà. Alors. Il y a d'autres auteurs, je veux dire, que je pourrais citer. Bon, j'aimais beaucoup, alors il n'a pas beaucoup écrit, mais j'aimais beaucoup ce qu'a fait Gérard Klein, par exemple. Hein. Michel Jeury, pour lequel, enfin, il a eu le premier Grand Prix de la science-fiction française. Et là, on a eu l'occasion aussi de se rencontrer très souvent. Difficile de vous dire tous les auteurs français que j'ai pu aimer. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas encore reparler de la personne qui est en face de moi, mais il fait aussi partie, je n'ai pas tout lu de son œuvre, hein, mais des auteurs que j'aime bien. Et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Mais on, je dirais, à la limite, on a vécu et écrit un peu chacun de notre côté, jusqu'au jour où il fallait absolument qu'on se retrouve. Et depuis quelques années, on se trouve pas mal quand même.
Alors, justement, pour en revenir à tes activités contemporaines d'aujourd'hui, parce que Jean-Pierre a été à l'origine, vous l'avez bien compris, de beaucoup d'événements dans le fandom français. Mais il continue évidemment aujourd'hui. Alors, il m'a fait l'honneur de m'inviter aux Aventuriales. Donc il y a 2 ans, il se passe à Ménétrol. Alors je crois que aujourd'hui tu
je m'en occupe plus, mais
tu t'en occupes
bon,
plus.
Il faut laisser la place.
Voilà, hein. Mais tu l'as créé.
Oui, tout à fait.
Donc
oui.
Il a créé un festival, voyez. Donc création du Grand Prix, création donc des conventions, création d'un festival. Et puis pour faire le lien avec Jean-Pierre Andrevon, cette revue donc Gandhar. Alors est-ce que tu pourrais nous parler justement de la création de ce festival? Il s'appelle Les Aventuriales, et puis aussi la création quand même de cette revue Gandhar, que je crois qui est en vente. Hein. Enfin, que,
non, non, j'en ai pas. Comme je suis venu en train, je ne pouvais pas me charger.
Hein. Bon. Mais il y a quand même des choses à vendre là-bas.
Non, mais enfin, il y a des choses. Il y a quelques-uns de mes romans, et encore, il y a des éditeurs qui ont oublié de les envoyer.
Enfin, vous le trouvez très facilement sur Internet. Oui. Ah, vous pouvez vous procurer donc la revue. Oui. Est-ce que tu pouvais nous
alors, bien sûr.
déterminisme.
Donc, quand on a créé les aventurielles, en même temps, on avait l'idée de, je dirais, de créer un support littéraire. Et on a eu cette idée de faire une revue qui, au départ, on ne savait pas trop. D'abord, donc, il y avait des appels à texte. Et donc ça permet de découvrir et de mettre un petit peu en avant des jeunes auteurs, dont certains qui ont pignon sur rue, comme on dit, et qui souvent participent à ces numéros, ce qui donne quand même un petit éclairage supplémentaire à la revue. Et depuis maintenant un certain nombre de numéros, on alterne, c'est-à-dire qu'on a un numéro qui est un numéro à appel à texte et un numéro qui est consacré un thème particulier. Par exemple, on en a fait un sur les grandes dames de la science-fiction, un autre sur des, je dirais en gros, le fantastique, ancien et récent, sur des auteurs. Il y a eu, par exemple, donc ce numéro Christine Renard, on a eu un numéro Enberg, on en aura d'ailleurs d'autres, on va avoir un numéro Michel Pagel, on va avoir un numéro sur Androvan, enfin voilà, donc on fait un peu cette alternance, et je dirais, grâce à mes relations dans le milieu artistique, puisque je vais souvent, par exemple, à la Biennale qui se tient à Sedan, je cherche le Chimerla, voilà. Ça m'a permis de rencontrer des peintres internationaux, je dirais, et dont certains ont accepté de nous laisser une de leurs œuvres, enfin, pour servir de couverture. Donc, je crois qu'on a des couvertures qui, souvent, sont très, très belles. Donc, voilà un peu grâce à la naissance à la fois des aventuriales, donc l'existence de cette revue. Alors, lorsque j'ai quitté les aventuriales, il a fallu, séparer l'association en deux. Donc, il y en a une qui est celle des aventuriales et une autre qui est celle de la revue. Et cette revue, on l'a enrichie avec ce qu'on appelle le patrimoine de l'imaginaire, où on essaie de republier des romans qui ne seraient peut-être pas publiés autrement, parce que dès qu'un auteur est décédé, à part quelques rares exceptions, heureusement qu'il y en a, mais souvent on les oublie. Et donc, on essaie de remettre au goût du jour des auteurs, qu'on a oubliés et qui méritent quand même une relecture. Enfin, il y en a d'autres qui le font, heureusement d'ailleurs.
Voilà, donc vous avez bien noté la revue Gandard.
Oui.
Où vous allez trouver donc des textes contemporains de jeunes auteurs, mais aussi donc peut-être des textes inédits d'auteurs.
Ça, alors dans le cas de Christine Renard, exactement. Voilà. Oui.
Et puis donc cette revue Gandard que vous pouvez trouver assez facilement sur internet.
Alors en gros, ça sort tous les 2-3 mois, ça dépend.
Voilà.
Et puis alors je précise quand même, puisque je suis pas le seul, à une époque j'avais été rédacteur en chef de la renaissance de Lunatique, qui a été aussi, à la grande époque des fanzines, un fanzine assez exceptionnel, notamment pour sa durée, puisqu'il a duré une bonne dizaine d'années, si je me souviens bien. Et donc, je dirais, deux personnes m'avaient contacté pour reprendre la rédaction. Donc ça a tenu quelques années, pas très très longtemps, mais enfin bon. Et puis, la revue s'est arrêtée. Et Pierre Gévard, qui est le directeur de la revue Galaxy, a bien voulu reprendre un petit peu la suite. Au début, en accordant deux numéros par an. Et en fait, étant donné que j'avais déjà, grâce à Jean-Pierre, participé et réalisé un ou deux Lunatiques donc ensemble, donc on a pris le relais, c'est-à-dire que un numéro sur deux, c'est lui qui est rédacteur en chef, délégué, comme c'est écrit dans la revue, et un autre où c'est moi qui suis rédacteur en chef délégué. Donc voilà. Et les deux prochains numéros, alors je dis les deux parce qu'il y en a un qui va sortir là sous peu, il devrait être sorti, mais il y a eu un tout petit retard, mais enfin, il va sortir début juin, dont le dossier est consacré à Christine Renard, l'accompagne un numéro bis, si je puis dire, qui sera plus sur commande en quelque sorte, et où là, il y a énormément d'inédits que j'ai pu récupérer depuis.
Très bien. Et donc, la collection on a dit patrimoine de l'imaginaire.
Tout à fait.
Là où vous allez avoir justement des rééditions d'auteurs là comme donc Christine Renard,
pour le moment, donc de Hennberg, voilà.
Voilà. Bon, et puis c'est bien parce d'autres. Que tu mets aussi à l'honneur donc les femmes. Il n'y a pas eu beaucoup d'écrivaines ou d'autrices, oui. dans la science-fiction française.
Excuse-moi d'ailleurs. On avait fait un numéro de Gambard où on l'avait intitulé les grandes dames
absolument,
de l'imaginaire.
Absolument.
C'est assez amusant parce que j'avais cherché une écrivaine d'avant-guerre. Puisque je voulais couvrir, et avant-guerre, disons, il n'y en avait pas. Il y en avait une, mais elle était suisse, mais enfin suisse francophone, Noël Roger, qui écrivait des romans. Et heureusement, j'ai réussi à dégoter un recueil de nouvelles, la plupart qui n'ont rien à voir la SF, mais il y avait au moins une nouvelle qui n'était pas trop mal, donc je l'ai publiée. Il y avait donc quelques auteurs, je dirais comme Hennberg, etc., etc. Et puis, ont bien voulu participer, Elisabeth von Arburg, Joël Vintrebert, par exemple, dans les auteurs récents, Sylvie Lainé. Donc ça faisait quand même, j'irais, un panel d'auteurs anciens et d'auteurs beaucoup plus récents et des auteurs de qualité.
Oui, voilà. Donc vous voyez un regard qui est quand même intéressant sur la science-fiction française. Et moi je dirais tu es encore la jeunesse, c'est aussi le fait d'avoir toujours des projets. Et je crois qu'à travers cet entretien, on vous a montré que voilà, la jeunesse, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est d'avoir toujours ces projets, des projets de réédition, des projets de découverte, des projets de dossiers. Peut-être un peu moins des projets d'écriture.
Enfin, si,
au moins d'écriture juridique,
si
aussi. Bon, voilà. Alors, on va peut-être terminer. Je vois le temps qui passe.
Oui,
et puis,
oui.
On va se garder
oui,
peut-être...
Voilà. des projets, effectivement, d'abord j'en ai au niveau édition, hein,
oui.
Au niveau participation donc à une ou deux revues. Là on m'a contacté pour une nouvelle pour une anthologie, enfin c'est pas la première fois, ça arrive à plein d'autres. J'ai deux romans en cours, mais alors qui avancent à la vitesse d'un escargot sur une feuille de charbon, sûrement. Ouais. Mais j'espère quand même en venir à bout. Et puis on me demande toujours la suite de ma saga, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ma geste due à la gaine, qui attend une suite depuis longtemps. Et j'espère qu'avant que je parte dans d'autres...
Dans les étoiles.
Voilà, où on voudra, enfin bon, là je ne sais pas où, mais j'espère quand même pouvoir m'y remettre et le finir à ce moment-là, quoi. Voilà.
Très bien. Eh bien, écoute, Jean-Pierre, on va te remercier pour cet entretien qui, je l'espère, vous aura apporté un éclairage. Enfin, ceux qui connaissent bien l'histoire de la science-fiction française connaissent Jean-Pierre, mais les plus jeunes, peut-être, vous ne connaissiez pas tout cet aspect-là, en fait, de la SF française. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à notre ami Jean-Pierre Fontana ? Ou pas ? Non, pas de questions. Bien. Bon, écoutez, je crois qu'on va clore notre entretien ici.
En tout cas,
on va te remercier. Et
oui,
puis,
non, c'est moi qui te remercie.
Et puis, on va le retrouver très vite avec tous les projets. Voilà.
Merci beaucoup,
Jean-Pierre.